La semaine dernière, un thème. Nous sommes dans le Perek Zayin, chapitre 7 de Shaarichut Ve'Emunah.
Quelle page ?
Et nous allons commencer notre sixième cours, page 106. La semaine dernière, nous avons commencé un thème pour expliquer les notions de Kabbalah qu'on retrouve un peu partout, dans le Zohar, et dans les écrits du Maharal, page 106. La notion de Memalé et de Sovev. Sovev, on n'a pas encore expliqué. Memalé et Sovev. On a expliqué que lorsqu'on veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu interagit avec le monde, il y a deux termes qui sont employés par le Zohar. Un premier terme, c'est Memalé. Dieu emplit le monde. Et un deuxième terme, c'est Sovev, il enveloppe le monde. Alors la semaine dernière, on s'arrêtait que sur le premier. Et je voudrais revenir en deux minutes dessus parce que j'ai vu la semaine dernière qui n'était pas très simple. Il y en a un peu qui ont décroché à la fin. C'est normal, c'est un sujet qui est compliqué. Et c'est pas forcément qu'on le comprend du premier coup. Il faut repasser un petit peu. Juste de 2-3 minutes. Pour expliquer c'est quoi la notion de Memalé.
Mais qu'est-ce qu'il y a expliqué...
Attendez, je commence. On a expliqué la semaine dernière la relation qu'il y a entre le corps et l'âme. Que le corps et l'âme sont interconnectés de façon à ce que le corps ressent ce qui se passe chez l'âme. Et l'âme ressent ce qui se passe chez le corps. Exemple. On a donné beaucoup d'exemples la semaine dernière. Lorsque, par exemple, j'ai froid, d'accord? Par exemple, je trempe mon doigt dans l'eau froide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis j'ai froid. Qui a froid? C'est, le corps ressent le froid et l'âme le ressent aussi. L'âme ressent le froid. C'est-à-dire que je me mets à avoir froid. J'ai froid. Mais c'est qui j'ai froid? Elle a expliqué. Il a dit que l'âme est connectée avec le corps de façon à ce qu'elle ressent, l'un ressent ce que l'autre ressent. Lorsque le corps va bien, l'âme va pas bien aussi. Ah pardon, lorsque le corps va mal, l'âme va mal aussi. Et lorsque l'âme va mal, le corps va mal aussi. Des fois les gens se lèvent le matin, ils sont pas bien. Il est pas bien, ils sentent que son corps est pas bien, il arrive pas à se concentrer. On dit mais qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien avec ta femme, ça va bien. Tes enfants, tout va bien. Les affaires, tout va bien. Mais je suis pas bien, j'arrive pas à me concentrer. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il va chez le docteur il prend, monsieur, vous allez très bien, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas bien. Des fois, il faut aller chercher du côté de l'âme. C'est que l'âme, elle n'est pas tranquille, parce qu'elle sent qu'il lui manque quelque chose. Et quand l'âme, elle ne va pas bien, le corps ne va pas bien aussi. Ça, c'est un exemple typique de Memalé. Memalé, ça veut dire qu'un emplit l'autre. Ça veut dire qu'ils sont tellement l'un dans l'autre, imbriqués l'un dans l'autre, qu'ils sont sensibles, chacun à ce que l'autre ressent.
Ils interagissent
entre eux, exactement. Et ça, c'est un niveau de fusion extraordinaire. Le problème, c'est que d'un côté, effectivement, quand on veut imaginer la fusion que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, on peut dire que, on aimerait dire que Dieu nous ressent comme mon âme ressent mon corps, et que nous, on le ressent comme mon corps ressent mon âme. Et effectivement, c'est le cas. Parce que Dieu est interconnecté avec nous, et il ressent tout ce qu'on ressent. Il n'y a pas besoin de chercher ce qu'on ressent. Il n'y a pas besoin de nous voir pour ressentir. C'est en nous, c'est en lui. Vous me suivez? Ça veut dire, je vais expliquer un peu cette idée parce que c'est très important, sinon on va passer à côté du cours d'aujourd'hui. Si par exemple, mon âme veut savoir comment va mon corps, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a besoin d'aller vérifier, d'aller interroger constamment comment va mon corps? Vous savez, en informatique, on a ce système d'interrogation. Vous avez un processeur et vous avez plusieurs composants. Vous avez des composants. Un composant c'est la mémoire, un composant c'est ci, un composant c'est ça. Je parle dans un ordinateur, parlez de votre voiture. Dans votre voiture, vous avez plein de composants. Vous avez l'accélérateur, vous avez les freins, vous avez les vitesses, vous avez les phares, vous avez, etc. Et vous avez un ordinateur dans votre voiture qui interroge ses composants constamment. Chaque seconde, il interroge tous ses composants. Et quand par exemple, vous avez un feu qui ne marche pas, qu'est-ce que vous allez voir sur l'écran de votre voiture? D'accord? Vous allez voir un voyant qui va s'allumer, service, projecteur, d'accord, feu projecteur, d'accord, etc., a changé. D'où il sait qu'il faut le changer? Qui lui a dit qu'il faut le changer? Parce qu'il y a un capteur qui est constamment en train d'interroger. Il y a un ordinateur qui interroge constamment. Il envoie des signaux, il récupère. Et dès qu'il y a un signal qui ne passe pas, ou dès qu'il y a un circuit qui a été brisé, il sait qu'il y a un problème, et tout de suite, tu te dis, il y a un problème. Pas besoin d'aller chercher, je sais qu'il y a un problème. Sauf que, dans ce système, il faut constamment interroger. Donc imaginez maintenant, par exemple, qu'on est autour d'une table ici, et que moi, à chaque instant donné, je veux savoir comment vous allez. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je ne suis pas vous, et vous n'êtes pas moi. Qu'est-ce que je veux faire? À chaque seconde du cours, je vais faire comme une caméra, je vais retourner, je vais regarder chacun, et à un moment, je vais voir, hop, Michel, il s'est endormi. D'accord? Hop. Donc, d'accord, c'est possible, tout est possible. Bon. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? Michel n'est pas moi. Et je ne suis pas Michel. Mais, je surveille constamment. Ok? Et c'est pour ça que comme je surveille constamment, je sens ce qui se passe, je vois ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on va dire que Dieu, c'est la même chose? Pour voir ce qui se passe chez l'être humain, il contrôle constamment. Et dès qu'il y a un bug, il dit, mitzvah, avera. C'est une première approche.
Il devrait savoir s'il y a déjà un bug, il n'a pas besoin de...
Alors, c'est exactement. Première approche, c'est de dire que Dieu contrôle constamment. Il contrôle les éléments qui sont extérieurs à lui.
Périphérique. Il
n'y
a pas d'extérieur.
Oh. Deuxième approche, il dit non. Je dis, regarde, le bon exemple, c'est comme mon corps et mon âme. Est-ce que quand j'ai mal, j'ai besoin d'avoir un capteur qui envoie tous les chaque seconde à la main qui dit, main, comment vas-tu? Bien, mal, je vais mal. Non. Ça marche pas comme ça. Ils sont tellement interconnectés que mon âme n'a pas besoin d'aller interroger ma main pour lui dire comment vas-tu. L'âme n'a pas besoin d'interroger le corps pour lui demander comment vas-tu. Et le corps n'a pas besoin d'interroger l'âme pour lui dire comment vas-tu. Ils sont tellement connectés que l'un ressent automatiquement ce qui se passe chez l'autre.
Donc c'est un seul élément. Alors.
Un seul élément, exactement. Donc évidemment, pour Akadosh Baruch Hu, ce deuxième exemple est beaucoup plus cohérent que le premier.
Mais c'est faux.
D'accord. Le problème, pourquoi c'est faux?
Parce qu'on a dit qu'il n'y a rien d'extérieur à Kadosh Baruch. Donc, en même temps, c'est une notion que nous.
Donc très bien. Donc le deuxième exemple est parfait.
Hein?
Le deuxième exemple est parfait.
Non, il est imparfait le deuxième exemple.
Pourquoi? Non, au contraire. Le premier exemple, c'est qu'il dit qu'il doit constamment contrôler.
Ça c'est faux.
Le deuxième exemple, il te dit non.
Imparfait.
Il te dit j'ai pas besoin de contrôler. C'est en moi.
C'est pas en moi, c'est lui.
Très bien. Donc ça veut dire il a pas besoin de sortir de sa personne pour trouver.
C'est lui.
Très bien. Donc c'est bon. C'est ce qui m'intéresse. Donc effectivement, par rapport à ça, on a un bel exemple par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il voit en lui et il nous trouve. Sauf qu'il y a un problème. Il en arrive tout de suite. Le problème, c'est que si tu dis que Kadosh Baruch Hu, il est connecté à moi comme mon âme est connectée à mon corps, et que Dieu serait l'âme et moi je serais le corps, il y a un problème. C'est que l'âme est sensible à ce qui se passe au corps et le corps est sensible à ce qui se passe en l'âme. Et quand je fais du mal au corps, l'âme a mal aussi. Donc là, est-ce qu'on pourrait dire la même chose avec Akadosh Baruch Hu? Que puisque tu me dis qu'il est interconnecté avec nous, ça voudrait dire que ce que je fais peut changer quelque chose en Dieu. Non. Est-ce que c'est possible?
Impossible.
Donc là, on a un bug. Vous me suivez? Michel.
Dehors.
Comment allez-vous, Michel?
Bien. Avec les bêtes.
Vous avez mangé ce soir?
J'ai mangé, c'était 16h.
C'était bon?
J'ai mangé du blé.
Hein?
Du blé de Shabbat.
Ça a été les affaires aujourd'hui?
Après, la thune.
Vous avez froid? Vous avez chaud?
Tout va bien.
Bon, prochain. Le tramway, il passe ou pas encore?
Presque. Ouh
là là, c'est loin, hein. C'est loin, il faut...
2025.
Il y a des gens qui veulent pas que le tramway passe, des gens qui veulent que le tramway passe.
Ouais, bien sûr.
Tramway, c'est du trafic.
Les commerçants, ils
exagent.
Bien
sûr. Bon.
Oh,
le tramway, il va passer devant chez toi? Ah
oui, oui. Vous êtes content que le tramway passe devant chez vous?
Ouais, c'est bien.
Quoi, ouais, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien?
C'est bon, ils sont énormes.
Après, c'est pas bien, bien sûr.
Ok. Alors.
Disons que si j'étais propriétaire, mon bien, il aurait doublé.
Vous connaissez pas l'histoire de la chèvre?
C'est pas bien.
De Monsieur Seguin?
Non, pas de Monsieur Seguin. La chèvre du rabbi.
Du rabbi. Ah.
Vous la connaissez ou pas?
Fait.
Vous la connaissez? Une fois, il y a une personne qui est venue voir un rabbi qui lui a dit: Rabbi, c'est trop petit chez moi. Ma femme n'en peut plus.
Ah ouais.
Alors, je ne sais pas c'est quel rabbi, hein. C'est pas un rabbi de Chabad, mais c'est un rabbi. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou un... Bon, en tout cas, le message est bon. Alors, il demande au rabbi, il dit: ma femme, elle n'en peut plus, la maison est trop petite. Alors, le rabbi lui dit: tu vas prendre une chèvre, tu vas la rentrer à la maison. Et tu reviens me voir dans quelques semaines. Vous la connaissez?
Non, mais je rigole déjà parce que...
Donc lui, il revient, sa femme lui dit: alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Une bracha pour un nouvel appartement, si Dieu veut? Avenue Foch? Une fois qu'est-ce qu'il dit? On dit: non, le Rabbi, il a dit, on fait rentrer une chèvre dans la maison. Bon, la femme, elle a de l'émouna, le Rabbi, il a dit. Et elle n'en peut plus, évidemment, la chèvre, c'est... Enfin, une chèvre à la maison, etc., ça s'arrête pas. Alors, au bout de deux semaines, elle craque, c'est avant la date, elle dit: écoute, va voir ton rabbi, et tu lui dis qu'on n'en peut plus. C'est avec cette chèvre. Et va voir le rabbi lui dit: alors, comment ça va avec la chèvre? Il dit: écoutez, rabbi, c'est pas terrible avec ma femme et tout, c'est compliqué. Alors, rabbi lui dit: tu vas prendre des coques et tu vas faire rentrer à la maison aussi.
Des coques ?
Des coques. Et comme ça, il fait rentrer les coques à la maison.
Elle n'est pas partie.
Il fait rentrer les coques à la maison. Et pareil, tu reviens dans quelques semaines. Bon, évidemment, vous comprenez l'histoire. La femme, elle craque, etc. Hop, elle renvoie chez le mari. Elle renvoie le mari chez le rabbi. Et le rabbi, il revient voir le rabbi. Le rabbi, il rajoute encore un animal, etc. Il fait rentrer à la maison. Trois fois comme ça. À la fin, il n'en peut plus. Alors, il retourne chez le rabbi. Il dit, écoutez, rabbi, il n'en peut plus. Là. Avec, entre la chèvre, les coques, et je sais pas ce qu'il a rajouté, un chat, je sais pas ce qu'il a rajouté à la maison, il n'en peut plus. Alors, Rabbi lui dit, bon, alors, ok, j'ai compris. Si vous n'arrivez pas, dans ce cas-là, vous pouvez tout enlever de la maison.
Et la maison, elle grandit.
Et la maison, elle est devenue grande. Vous prenez ?
Ouais, oui. C'est...
Qu'est-ce qu'on apprend de ça ?
C'est, je sais pas, c'est dans la tête. C'est une allusion, quoi. Voilà.
Tout est relatif. Mmh. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Que tout est dans la tête. Si dans ma tête je vois petit, alors c'est petit. Si dans ma tête je vois grand, alors c'est grand. C'est tout relatif. Mmh. Tout d'un coup, t'as l'impression que c'est très grand. Vous savez, c'est comme, t'as cette impression quand tu... À Pessah, la cuisine, on surcharge la cuisine. Genre, c'est aluminium, mais je crois qu'il touche pas. Je sais pas comment tu fais dans votre cuisine, mais chez Rabat, on rajoute beaucoup, mais dans toutes les cuisines, on rajoute beaucoup.
On fait l'aluminium. Hein,
mais l'aluminium, tu rajoutes beaucoup.
Juifs, non, mais chez les Juifs, ça marche.
Non mais vraiment, ça veut dire nous chez Rabat, on rajoute des plans, on met un nouveau plan de travail dessus. C'est-à-dire, tu surcharges la cuisine, ouais. Tu rajoutes, tu gardes comme ça pendant 8 jours. Et après au bout de 8 jours, quand t'enlèves la cuisine, qu'est-ce que t'as l'impression?
C'est vide,
elle a grandi la cuisine.
Ouais, ouais,
la même cuisine.
Exact.
Voilà. Bon, donc tout est dans la tête.
C'est l'exemple de la chèvre.
C'est la même impression. Quand tu vas en vacances et tu reviens, tu vas en vacances longtemps, 2 semaines, 3 semaines. Et tu reviens de vacances.
Ta maison a changé.
A grandi la maison.
Tiens, c'est comme ça, mais ça,
pas comme ça.
Parce
que t'as l'idée.
Tu reprends ta voiture, tu dis, c'est grand, c'est petit, ça dépend de ce que tu as.
Ah, les baguettes.
Bon. Alors, on va maintenant aller dans le texte. On s'est étalé à l'oral, on va aller maintenant dans le texte. Donc, jusqu'à présent, on a expliqué ce que c'était Mémalé. Mémalé, c'est une première façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu interagit avec le monde. Sauf qu'il y a un détail qui n'est pas juste dans ce que je viens de dire, c'est que, certes, il interagit avec le monde et il ressent ce qui se passe dans le monde, comme l'âme ressent ce qui se passe dans le corps, mais d'un autre côté, il y a des limites à cette analogie, dans le sens que ce qui se passe chez l'être humain ne va pas changer quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. Ça c'est clair. Je ne peux pas changer quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Mais à part ça, il y a cette idée intéressante de Mémalé, à savoir... L'être humain interagit avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu ressent parfaitement ce que l'être humain ressent. Maintenant, Sovev. On y va à Sovev. Allez. Vezehu Gamken.
S'il ressent, c'est que je lui fais du mal quand je fais du mal à Manesha.
Non, justement, ce que j'ai expliqué. C'est que c'est un exemple, c'est une comparaison, une analogie, mais avec ses limites. On ne peut pas tout comparer. Il y a des choses qui se comparent, des choses qui ne se comparent pas. Donc, Vezehu Gamken. Allez, on y va. Page 106, en bas de la page. 3 paragraphes avant. C'est cela aussi la signification de la notion de Memal, de Sovav Kolalmin. Que Akadosh Baruch Hu, il y a une autre notion, comme dit le Zohar, que Akadosh Baruch Hu enveloppe tout le monde. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce qu'il veut dire ici, c'est quoi Sovav. Imaginez un enfant qui vient à un cours de Tania. Un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'il va comprendre d'après vous?
Rien.
Pas grand chose.
Pas grand chose.
Un adulte, qu'est-ce qu'il comprend?
Rien.
Oh, déjà.
Un peu mieux.
Enfin, même l'adulte, c'est dur, hein.
Bon, très bien. Donc, il n'a pas compris grand chose. Ok. Il va sortir du cours, le Tania, et il va dire à son père, il va dire, ah, papa, j'avais l'impression que le cours, il était super. D'après vous, cet enfant, il sait ce qu'il raconte ou il sait pas ce qu'il raconte?
Il fait plaisir à son père.
Il sait pas. Il sait pas ce qu'il raconte.
Donc vous êtes en train de dire, attendez, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que s'il n'a pas compris, il peut pas ressentir.
Non, non.
Ah, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous dites?
Alors
dites-moi.
C'est pas possible. Parce que dans son fond intérieur, il a vu que c'était quelque chose de bien, mais ça le perçoit pas parce qu'il n'a pas encore l'âge, la notion, il n'est pas encore développé pour ça.
Entendez? Extraordinaire.
C'est comme une personne qui sait conduire mais qui n'a pas le permis de conduire, quoi.
Donc il voudrait conduire. Pense qu'il serait.
Ah, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut ressentir, mais sans être capable d'être, sans être capable de les définir. Tu vois, par exemple, je vais aller plus loin parce qu'il y a plein d'exemples sur ça. Tu vois là, aujourd'hui par exemple, plusieurs sont partis chez le rabbi, Baruch Hashem, une équipe de jeunes du Betrabe sont partis chez le rabbi, d'accord. T'as une qui va chez le rabbi. Tu dis alors comment c'était, si c'est super. Raconte-moi, qu'est-ce que t'as ressenti? Il est incapable de te raconter ce qu'il a ressenti. Il va te raconter qu'il est parti là-bas, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Mais qu'est-ce que t'as ressenti? Il va essayer de mettre des mots, mais il sent lui-même que c'est pas ça. Pourquoi?
Mais il ressent quand même quelque chose. Non
mais
après peut-être.
Donc
après le voyage.
Non, là d'accord, pas spécialement.
Non, il peut être.
Pour ressentir
être
les choses.
Non, parce que c'est pas parce que on rentre pas dans le domaine de la compréhension.
Mais pendant quelles conditions il est parti déjà?
Non. Dans... Il peut être impressionné par beaucoup de choses. Qui sont
peut-être
pas
a priori, peut-être que le
mec... Vous allez aller à un concert. L'Avdil, mais bon, vous allez aller à un concert. On dit comment c'était le concert, c'était super. Qu'est-ce qu'il y avait?
Si tu connais la personne, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le concert? Peut-être que tu n'es pas mélomane. Tu n'es pas capable de dire, il y avait tant de musiciens, il y avait tel type de sono. Tu n'es pas capable, mais tu sais que c'était bien. Pourquoi?
Un déclic.
Parce que là, on rentre dans le domaine du sauvève. Deux secondes, je termine le raisonnement. C'est quoi le domaine du sauvève? C'est des choses qui t'enveloppent. Il y a des choses que tu n'arrives pas à intégrer, mais qui t'enveloppent. Une ambiance. C'est-à-dire, tu sens que c'était quelque chose de particulier. Dans le bien comme dans le mal. Des fois, tu es avec quelqu'un et tu dis, celui-là, je le sens pas. Pourquoi tu le sens pas? Des fois, t'es avec ta femme et tu dis, celui-là, je le sens pas. Cet endroit, je le sens pas. Cette maison, je la sens pas. Mais pourquoi tu le sens pas? Qu'est-ce qui t'a fait?
Enfin, c'est pas parce que ça ne s'explique pas.
Ok.
Que tu vas pas sentir.
Donc là, on est dans le monde du sauvève. C'est quoi le monde du sauvève? C'est les choses qui sont trop puissantes pour être intégrées, mais qui nous enveloppent. De la même façon, quand on va parler d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux façons de voir comment Akadosh Baruch Hu descend dans le monde. Il y a une première façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu, effectivement, il intègre le monde, il est à l'intérieur. Mais il y a une dimension plus élevée dans laquelle Akadosh Baruch Hu n'intègre pas le monde. C'est un autre niveau dans lequel il ne peut qu'envelopper le monde. Ça veut dire que tu n'arrives pas à le sentir dans ta table, mais tu sens que c'est dans l'air. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, enfin, c'est, on va dire que c'est abstrait.
C'est pas si simple. Vous savez, par exemple, alors, je vais donner plusieurs exemples parce que je pense qu'ils sont très importantes. Vous lisez un commentaire de Rashi sur la Torah. Un passage classique, Rashi te commande deux mots. Voilà. On a fait un cours entier, Shabbat, sur deux mots de Rashi. Deux mots. Au début de la paracha de Bo, Rashi dit Bo el Paro, enfin parce qu'il dit Bo el Paro vient chez Paro, et Rashi dit va très beau et préviens-le. Vous vous rappelez le cours? Deux mots. Bon, c'est un Rashi que j'ai fait à l'école. J'ai dû le faire quand j'avais 8 ans, 9 ans, je sais pas.
Il n'a pas la même signification.
Et j'ai compris ce qu'il voulait dire ce Rashi. Le professeur me l'a traduit, j'ai compris.
Avec le recul.
D'accord? J'ai compris ce Rashi. Et là, quand tu le revois, tu vois un commentaire du Rabbi dessus.
C'est un autre angle.
C'est pas un autre angle, c'est un autre Rashi.
Ah.
C'est-à-dire que c'est deux mots, que tu parles une heure sur deux mots. Alors tu dis, mais je comprends pas. Est-ce que ce Rashi, quand j'avais 8 ans, 9 ans, est-ce que je l'ai compris?
Non, est-ce qu'il était peut-être brillé comme un
prix à votre niveau?
Non, non, non.
Au niveau des 9 ans.
Est-ce que je l'ai compris? Oui, je l'ai compris.
Ça n'est pas ma perception.
Mais pourtant, maintenant, je comprends que je ne l'ai pas compris. Maintenant, je dis, j'arrive pas à comprendre ce Rashi. Mais comment c'est possible? Je vais aller plus loin. Imaginez par exemple qu'un enfant, il va te dire, Dieu existe. C'est vrai, l'enfant, il dit, Dieu existe. Bon, il dit, Dieu existe. Ce même enfant, il va grandir. Il va dire, ah, Dieu existe. Il va commencer à faire un pile-poule pour expliquer ce que ça veut dire que Dieu existe. Il va dire, j'arrive pas à comprendre. Mais je comprends pas. À 5 ans, c'était évident pour toi que Dieu existe. Pourquoi est-ce qu'il était évident pour toi à 5 ans de devenir compliqué? Parce que c'est pas la même chose. On parle pas des mêmes domaines. Quand t'étais petit, t'étais dans la dimension de sauvève. Ça veut dire que tu touchais à ce qui t'enveloppe. Une ambiance. Il y a une ambiance. Et une ambiance, tu la sens tout de suite. T'es capable de dire, j'étais là, j'ai senti une énergie, j'étais chez le rabbi, j'ai senti ici, je suis venu à un cours, j'ai senti que c'était intéressant, j'ai senti que ça parlait à Maneshama. Des fois, je parlais des gens après le cours, je dis alors comment t'as trouvé le cours? Il m'a dit, ah, j'ai senti que ça parlait à Maneshama. Alors moi, quand j'entends une réponse comme ça, je vous fais une confidence. Pour moi, c'est une bonne réponse, c'est une mauvaise réponse. C'est une bonne réponse, ça veut dire qu'au moins, j'ai pas perdu mon temps, le cours a parlé à Maneshama. Mais c'est une mauvaise réponse, ça veut dire que le gars, en général, il a pas compris le cours, quand il me répond comme ça. S'il me répond Maneshama, elle a compris, c'est que, elle a pas compris.
C'est que lui, il a pas compris.
Oui, mais ce n'est pas étonnant, mais
hein?
C'est pas étonnant, ça dépend du niveau.
Je crois qu'il y en a qui se sentent visés, et bon.
Ça dépend du niveau des gens, tu peux ne pas comprendre.
C'est pas une critique, ce que je fais.
Non.
C'est comme ça. Des fois, ça m'est arrivé, j'étais à la yeshiva, tu fais un cours entier du rav, tu es peut-être pas assez préparé ou tu t'es peut-être pas préparé dans les domaines qu'il fallait parce que tu sais quand t'es allé à Yeshiva surtout dans les dernières années tu viens pas comme ça au courant, c'est-à-dire que le rav tu sais déjà de quoi le rav va parler et il te donne les références sur lesquelles il va parler, donc tu viens pas comme ça, tu viens t'es préparé et des fois tu viens tu planes complètement, alors c'est enregistré donc tu vas recouter après etc, mais t'as plané mais t'as senti que c'était puissant, Pourquoi ils ont dit que c'est puissant? Parce que il y a des choses que tu n'arrives pas à sentir en même aller, ça rentre pas dans toi, mais le sauveur, il est là. Ça veut dire que ça t'enveloppe. Et ça, tu sens tout de suite. Tu sens, ta neshama, elle sent des choses. Elle sent que là, il y a quelque chose. Et des fois, elle sent dans le mal aussi. Elle dit, c'est pas bon, éloigne-toi d'ici. Tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est caché? Tout va bien?
Parce que le sauveur est plus facile que le même aller.
Parce que le sauveur est plus puissant. Il est tellement puissant qu'il ne peut pas entrer en toi. Il est tellement puissant qu'il ne peut pas intégrer en toi.
C'est plus fort que lui?
Non, c'est
pas... S'il est puissant, il peut rentrer. Justement.
Non. Ah non, justement. Non. Parce que s'il rentrait en toi, il te ferait péter les plombs. Parce que c'est une énergie qui est trop puissante pour toi.
Tu peux pas la, tu n'as pas la connaissance, tu peux pas l'absorber.
Et dans la vie, il y a beaucoup de choses que Hachem nous met qu'en sauveur et pas en même aller.
Donc on est tout le temps en sauveur. Voilà.
Non, on a les deux. On a les deux, on a les deux capteurs. On a un capteur même aller, des choses qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre. Et on a un capteur sauveur, les choses qui nous enveloppent. Et c'est pour ça que des fois tu vas voir des gens, tu dis viens au cours de Torah, viens moi j'ai la Emouna. C'est une bonne réponse qu'il a la Emouna.
What else?
C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est du même aller ou du sauveur? C'est quelque chose qui t'enveloppe ou c'est quelque chose, c'est du sauveur? Donc c'est une bonne réponse, c'est beau qu'il a la Emouna. Mais je dis, il y a un problème. C'est que quand tu n'as que la Emouna, tu n'as que le sauveur, tu n'as que ce qui t'enveloppe. Mais ça ne t'intègre pas. Et donc ça veut dire que, tu comprends, c'est quand on parle du judaïsme, pour toi c'est abstrait. Mais quand on parle de la science est concret.
Donc le même aller, il te change, et le sauveur, il te change
pas. Pas spécialement. C'est une très, très bonne définition, mais pas spécialement. Le même aller te change plus facilement que le sauveur. Parce que le même aller, il rentre dans tes tripes. Le sauveur, il t'engage pas. C'est autour de toi. C'était super.
Oui, sauf que le même aller, quand il rentre, il ne reste pas.
Pourquoi? Au contraire.
Ah, bah, dans les années, on peut l'oublier, il peut partir.
Au contraire, au contraire, au contraire. Au contraire, Razak.
Mais si vous êtes là,
ce qui est entré, ce qui est entré en toi ne bougera pas. Jamais. Ça veut dire que quand tu étais, par exemple, je vais être un peu dur, mais quand tu étais, par exemple, tu es parti chez le rabbi, mais que tu t'es pas préparé, qu'il n'y a eu que du sauveur, c'est-à-dire que c'était juste à t'envelopper, ça va tenir un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, après c'est fini, il ne reste plus rien. J'ai pas le droit de parler comme ça, parce que c'est clair que quand tu étais chez un rabbi, ça va faire quelque chose. Mais si toi, tu n'as pas capté le moment pour faire entrer ça en toi, ça ne tient pas. Par contre, si tu as réussi à prendre une décision qui est rentrée en toi, et que tu dis celle-là, maintenant je prends cette décision, celle-là, 10 ans plus tard, tu peux continuer là.
Mais ça dépend aussi de la volonté qu'on peut avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est décidé à ou pas?
Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, dans la vie, il y a deux types de choses. Il y a des choses dans lesquelles on est en mode même aller, des choses qu'on est en mode sauver. C'est comme ça. Des fois, c'est comme ci, des fois, c'est comme ça. Voilà, par exemple, le problème, c'est qu'on mélange un peu les gens. Tu viens samedi matin, Shabbat matin, tu écoutes la Torah. Tu comprends ce que le Chazanili? Alors pourquoi qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Tu écoutes quelqu'un dire des textes que tu ne comprends pas. Tu perds ton temps.
Ça fait du bien, Manichama.
Hein? Alors voilà.
Ça, c'est le sauveur.
Ok, très bien.
C'est le sauveur.
Tu as la réponse. Tu as la réponse, sauveur. La réponse, ça veut dire Manichama, elle comprend. C'est une bonne réponse. Il ne faut pas se suffire de ça. Quand on allait voir le rabbi, par exemple, le rabbi parlait des heures en yiddish. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Alors il y avait des... Bon, on disait, je me rappelle quand on était petit, on disait, mes parents, tout le monde disait, même si tu ne comprends pas, il faut quand même rester présent, écoutez, la Nechama, elle comprend. Il n'empêche que, même si on dit que la Nechama, elle comprend, quand c'était un Fabringen qui était pendant la semaine, il y avait des écouteurs, hein, tu pouvais écouter la traduction simultanée des paroles du rabbi, en hébreu, en français, en anglais, dans toutes les langues. Il y avait des, avec une radio, tu te connectais sur tu écoutais
dans l'avion,
en simultané. Pourquoi? La Nechama, elle comprend. Bien sûr que la Nechama, elle comprend. Mais si tu te bases que sur la Nechama, elle comprend, c'est du sauveur, c'est pas du même aller. Qu'est-ce que tu vas sortir, toi, avec ça, ce soir? Ah, c'est la question. Et c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Chez Kadosh Baruch Hu, il y a du même aller, il y a du sauveur. Il y a un mode dans lequel Kadosh Baruch Hu dit, je veux que tu me comprennes. Et ça, bon, tu vas capter ce que tu peux capter. Il y a un mode dans lequel Kadosh Baruch Hu dit, ouais, c'est sauveur. Tu pourras pas me comprendre, mais tu pourras me sentir. Ça, c'est possible. Ça explique beaucoup de choses, ce que je viens de dire. Des fois, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu a fait, mais on sent que c'était la bonne chose. Et c'est pas une autosuggestion, c'est réel. Tu sens que c'était la bonne chose. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est sur Bev. Il y a des questions, je crois. Monsieur Cohen. Rav, vous êtes avec nous? Vous êtes en sauveur ou on m'aimait aller dans le cours, là? Sauveur, pas mal. Hein?
Il est en sauveur et bientôt il sera sauvé, hein.
Non, vous savez, mais c'est pour ça que je, moi, c'est pour ça que je trouve que avant qu'il y avait les portables, les gens quand ils venaient à un cours, il y avait deux options. Ou ils écoutaient, ou ils dormaient. Maintenant, il y a une troisième option. Ils peuvent être réveillés, mais ils sont ailleurs. Et mais il lève les yeux constamment, tu vois, dit du style, t'inquiète pas, je suis là, mais t'es pas là. Mais je suis là, mais je suis pas là.
Il a la tête ailleurs.
Il a la tête à moitié ailleurs, semi ailleurs. Il est sauvé.
Pas là.
Il est dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'après le cours, la Gemara dit, c'est quoi une personne qui dort? Une personne qui dort, c'est que tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé, il est incapable de te dire. Une personne qui somnole, c'est une personne, tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé, il va te répéter des bribes. Il était là, il va te répéter. Mais il somnole.
Mais il n'a pas le même aller.
Il somnolait, il n'a pas le même mal, il était en sauvé. C'est ça le portable. Je vise personne, hein. je vois aussi un portable.
Mais tu sais ce qu'ils disent aujourd'hui, des jeunes, il y a une expression qui est née, ils sont ensemble et ils sont chacun devant leur téléphone.
Oui.
Ils appellent ça être seul ensemble.
Oh là.
Ah ouais.
J'imagine que finalement, ils ne parlent pas aux autres.
C'est grave, cette absence de communication. On passe le temps avec l'autre.
Vous voyez, des fois, dans une même maison, les frères et sœurs, une chambre l'un à côté de l'autre, ils se parlent par WhatsApp.
Mais oui, c'est ça.
Ou par d'autres.
Même à table, même à table, chacun.
Non, c'est sérieux ce que je dis. C'est un fléau.
Ah oui, c'est un fléau.
Et avec ça, les parents, ils sont contents qu'ils se parlent.
Et avant ce fléau, il y avait la télé. Déjà, avec la télé, on commençait à ne plus discuter.
La télé, ils étaient tous en temps.
À ne plus communiquer.
On regardait Léon Zitrone.
Voilà,
non, c'est ils tout. Ont deux yeux.
Mais on ne savait pas parler. Mais tout le monde était devant la
télé. Mais au moins, tout le monde regardait la même chose.
Ouais.
C'est déjà
alors
ça.
Mais là, chacun a son programme.
Chacun son programme. Chacun sa télé.
Chacun est ailleurs.
C'est un problème. Bon, alors on y va. Zéou, Gamkaïnien, Sovkol, Almin. C'est ça aussi la signification de... On va aller vite, hein, parce que là, je vous ai un petit peu mâché le travail pour la suite. C'est là aussi la signification, page 106, de que Dieu enveloppe tous les mondes. Pire, où ça veut dire, derrière Machal, par exemple, Kshadam Itbonen, Beizeid Vachma Besichlo, Dvarajme Marchafto. Prenons une image. Messieurs, même allez. Mais là, on va expliquer le sauveur, on va même aller. Prenons une image lorsqu'un homme réfléchit à une question intellectuelle dans son esprit ou un objet physique. Azaï, à ce moment-là. Sichlo ve marchavto ma kifim ala davarao ma metsuya ve marchavto be sichlo. Achen ma kifim ala davarao be pol mash. Ok. Imaginez, par exemple, j'ai un livre devant moi là. D'accord? Ne touchez pas le livre. Fermez les yeux. Et imaginez que votre esprit est en train d'attraper le livre. Dans votre tête, là, je l'attrape pas là. Voilà, je ferme les yeux et je m'imagine que mon cerveau, dans mon cerveau, je m'imagine le livre. Avec le ruban, avec la couverture, etc. Mais je ne l'attrape pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je conceptualise. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut... Bien vu. Est-ce qu'on peut dire que mon cerveau a attrapé le livre?
Il a attrapé l'idée.
Il a attrapé l'idée.
Il a attrapé quoi?
L'idée.
Donc, mon cerveau ne fait que...
Envelopper
le livre. Mais il n'entre pas dans le livre. La seule façon d'entrer dans le livre, c'est de le toucher, de le prendre dans la main, et là, je l'attrape. Là, je suis dedans. Tant que tu ne l'as pas physiquement...
C'est comme si tu parlais d'un concept concret.
Oui, exactement. Ça veut dire que dès qu'une chose est au niveau conceptuel, tu ne peux, tout de suite, tu es en sauvève. Maintenant, si tu arrives, comme je vais expliquer plus tard, si tu arrives à avoir une conceptualisation très poussée, ça veut dire vraiment à bien t'imaginer dans les détails et à dépecer complètement le sujet, tu peux arriver à recréer un mémalé dans ta tête. Tu as des gens qui sont capables, avec leur imagination, de disséquer complètement un projet. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans son cerveau, dans son imagination, il est capable de... Il voit pas un livre. Il voit feuille par feuille. Il voit les lettres qu'il y a dedans. Il voit la matière. Il voit le ruban. Il voit la couleur. Il arrive à tout voir dans son cerveau. Extrêmement compliqué. Parce que quand j'ai un livre dans la main, le livre il est là. Les feuilles sont là. J'ai pas besoin de m'imaginer que dans ce livre il y a 300 feuilles. Le livre est devant mes yeux. Donc il est là. Mais quand je dois me le conceptualiser, qu'est-ce que je vois dans ma tête quand je ferme les yeux? Je vois pas des pages distinctes. Je vois un livre. Parce que je l'enveloppe.
C'est global.
Réussir à intégrer le livre dans ma tête, c'est-à-dire me rentrer dans les détails, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à se lancer dans les affaires. Parce que des fois, t'as une personne a une idée.
Ça te suffit.
Il a une idée. Maintenant, l'idée qu'il a eue, c'est du sauveur. Il n'a pas développé. Donc, qu'est-ce qu'il va aller voir le banquier. Il dit, voilà, j'ai une super idée, start-up, va changer le monde. Qu'est-ce qu'il va dire dans le banquier. Il va dire, qu'est-ce qu'il vous faut. Il vous faut
un plan.
Un business plan, alors, un BP, d'accord. C'est quoi un business plan. Aujourd'hui, tu vas prendre cette idée avant de commencer la réalisation. Et tu vas la développer au maximum. Maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre à quelqu'un qui est pressé. Il va dire, non, mais vous inquiétez pas, on va lancer, on verra. Non, vous inquiétez pas, donnez le crédit, on va se lancer, de toute façon, au pire, on changera. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas disséqué l'idée, tu es en mode sauveur. Ça veut dire que ton cerveau enveloppe l'idée, mais tu n'es pas rentré dans l'idée.
Pas les détails.
Donc, qui s'est pas rentré dans l'idée, l'idée reste abstraite. Et donc, elle ne fonctionne pas. Après, c'est ton mazal. Peut-être que tu vas pas te préparer et directement, tu te lances et directement, ça marche.
C'est plus rare.
Mais c'est extrêmement rare. Ce qui n'est pas préparé, ça marche pas. C'est pas une question de banque, c'est une question que quand tu n'as pas développé quelque chose, ça marche pas. Il faut le développement. Quand on a un bébé, par exemple, le papa va donner la goutte, et après la maman va développer le bébé dans son ventre. C'est quoi le développement? C'est ça. Le papa, il a donné le sauvet, la maman, il a donné le même aller. Le papa, il a donné une goutte, mais une goutte, c'est une goutte. Une goutte, tu fais quoi avec une goutte? Tu fais rien avec une goutte. Et la maman, elle va prendre cette goutte, elle va la décortiquer, elle va en faire un bébé. C'est son rôle. Donc, le sauveur sans même aller, ça marche pas, mais le même aller sans sauveur, ça marche pas non plus. Il faut les deux. Donc, pareil pour Akadosh Baruch Hu. Il faut d'un côté une énergie puissante qui me dépasse, et d'un autre côté, il faut quelque chose que je puisse comprendre. Et là, avec ça, je réponds à une question que David a posée la semaine dernière. On écoute ta question. David a posé une question, il a dit à quoi ça sert tout ça. De toute façon, on comprend pas. C'est une bonne question. Très bonne question. En d'autres termes, si j'adapte ta question en termes du cours d'aujourd'hui, à quoi ça sert de me prendre la tête à faire du même mal et à essayer de comprendre, de disséquer dans les détails, alors que je sais que ce que je veux comprendre, c'est partiel et que c'est même pas, c'est tronqué. J'ai qu'à, dès le départ, me baser sur ma émouna, avoir une émouna de grand-mère. Avoir une émouna, de dire, bon, je sais que c'est comme ça, parce qu'on m'a dit que c'est comme ça, et parce que je sens que c'est comme ça. Qui a dit que je dois comprendre? C'est une bonne question. Qui a dit que Dieu est un concept que je dois comprendre? Émouna! Sauvez! Ça m'enveloppe, je sens. C'est là que vient Charles de Monet répond à cette question. Il te dit, tu as raison, dans l'absolu, tu as raison, qu'on aurait pu se suffire d'une émouna. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu lui a donné une mitzvah via data hayom. Vous avez donné une mitzvah de da'at. C'est quoi da'at?
Connaître.
C'est pas seulement, alors, vous savez c'est quoi connaître? C'est pas comprendre, c'est connaître. Quelle est la différence en hébreu entre les havin et la da'at?
Comprendre et savoir.
Comprendre et connaître. C'est quoi la différence entre les deux?
Comprendre, ça veut dire
connaître peut-être. Sans comprendre.
Alors, c'est le contraire. Comprendre, je comprends la chose, c'est mais je peux la comprendre par l'extérieur aussi. Connaître la chose, da'at, c'est par l'intérieur. C'est pour ça que lorsque Adam a eu des relations avec sa femme, quel terme le pasouk emploie? Ve Adam yada et travaïchto. L'homme a connu sa femme. Pourquoi on emploie le terme connaître? Parce que le terme connaître dans la Torah est un terme très profond. C'est quand tu arrives à rentrer à l'intérieur de quelque chose. Quand tu es dans les profondeurs. Yada. Alors, de la même façon. On te parle maintenant de da'at. Hachem, il te dit, t'aurais pu dire, bon, j'essaie de comprendre Hachem. Ce que j'ai compris. Ce que j'ai pas compris. C'est une compréhension. Ça reste abstrait, tout va bien. Hachem dit non. Je veux que non seulement tu me comprennes, tu essaies de me comprendre, je veux aussi que tu essaies de me connaître. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, tu demandes aux gens, tu dis, dis-moi, est-ce que tu comprends ce que ta femme te demande? Des fois, il dit oui, des fois non. Mais après, tu lui dis, est-ce que tu connais ta femme? C'est une question qui interpelle les gens, ça. Est-ce que tu la connais?
Je vais fermer les yeux.
Est-ce que tu connais ton fils? Est-ce que tu connais ta fille? Est-ce que tu le connais? Hein?
Enfin, c'est...
Une fois, le Rabbi Yamin Klein, il raconte, il y avait une fois, une personne ici qui connaissait une personne qui a d'ailleurs, qui était beaucoup en France, j'ai oublié comment il s'appelle. C'était une personne qui a beaucoup influencé les grands penseurs juifs français. Manitou, avant Manitou. Comment il s'appelait? Monsieur Chouchani. C'est un grand génie du siècle d'avant. Un grand génie. Qui a marqué beaucoup de monde. Le rabbi le connaissait. Le rabbi Amiklin, il raconte, il a marqué les plus grands penseurs qu'il y a aujourd'hui, qui a eu même Manitou, etc. Tous, ils l'ont connu. C'était quelqu'un de très très intelligent, mais il vivait dans son coin. Il était au Brésil, il était en France, il était en Israël, enfin bon, il a fait le tour du monde. Et dès que. Vous chercherez après sur. Et dès qu'il sentait qu'il y avait un peu trop de monde autour de lui, il s'enfuit, il pouvait disparaître de la circulation pendant plusieurs années.
Philippe Bizet, il en parle, je crois, il l'a rencontré.
Oui, bien sûr. C'est un personnage qui a marqué le siècle précédent. Et une fois, le rabbi Benjamin Klein, qui était un des secrétaires du rabbi, il raconte qu'il était en mission, le rabbi l'a envoyé en mission avec une équipe de la Yeshiva. Ils sont partis au. Je crois que c'était au Brésil ou en Argentine.
Montevideo.
D'accord. Montevideo.
C'est un Uruguay.
Ah, tu cherches, voilà, d'accord. Et il arrive là-bas, il rencontre M. Chouchani. Alors, M. Chouchani, il leur dit, qui êtes-vous? Alors, il leur répond, les élèves répondent, ils disent, nous sommes des élèves du Rabbi Lubavitch. Alors, il leur pose la question, il leur dit, est-ce que vous connaissez le Rabbi Lubavitch? Alors, il dit, bien sûr, on vient de vous dire, on est ses élèves, on le voit tous les jours, trois fois par jour, les tfilotes, une ravine, fait des cons, etc. Il dit, je vous ai pas demandé si vous voyez le Rabbi Lubavitch. Vous demandez, est-ce que vous le connaissez?
Oui.
Non, c'est pas une question. C'est sérieux comme question.
C'est pas. Qui se réclame de son enseignement, c'est pas.
Hein?
Léon Ashkenazi, donc Manitou, Emmanuel Levinas, encore Élie
Wiesel. Je ne sais pas si on peut tenir de tout ce qu'il disait.
Dans son autobiographie, il en parle beaucoup.
Oui, bien sûr.
Les flammes à la mer. Au premier tome, il en parle beaucoup.
Mais une personne extrêmement intelligente. Avec toujours, ça veut dire, sa grande force apparemment, c'est qu'il avait, toujours la capacité de, quand il prenait n'importe quel sujet, de le prendre par un angle que personne ne prend. Et on découvre beaucoup de choses quand on réussit à réfléchir comme ça. Réfléchir au contraire que ce que les gens réfléchissent. C'est qu'il te prend un texte, il te prend un angle complètement différent. Et il voit autre chose. Et apparemment, je ne sais pas s'il a connu le rabbi. Ouais. En tout cas, il a posé la question aux élèves, est-ce que vous connaissez le rabbi? Connaître.
C'est probable, parce qu'il est mort en 68.
Non, mais ça, je suis sûr, hein, je suis sûr de ça.
Dis-moi, tout à l'heure, tu as dit que Sauveb, c'était ce qui entourait, que c'était trop puissant pour rentrer.
Oui.
Et là, tu viens de dire d'un Sauveb qui pourrait rentrer à partir du moment où il est associé.
Non, justement, même aller, c'est connaître. Sauveb. C'est comprendre, mais de façon globale.
Oui, mais tu parles de la goutte de sperme du papa.
Oui.
Chochma binadat, ça rentre, c'est même.
Mais pas, non, pareil, après, on va prendre cette énergie-là, on va essayer de la développer.
Mais une partie de même aller, alors.
Une partie, bien sûr, on va transformer le sauveur en même aller.
Voilà, le sauveur en même aller.
Bien
voilà,
sûr. Ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, Aval Akadosh Baruch Hu, reprenons la page 107. Aval Akadosh Baruch Hu, dirti vekil marchevotel marchevotechem. Mais en revanche, Akadosh Baruch Hu, dont il est écrit, bonsoir. Qui le marché votre marché votre que mes pensées ne sont pas les vôtres. Marchaf to veyedia to sheida kol nivra ma kefet kol nivra ve nivra ve poel mamash. Ah. Là on est, t'as dit philosophie David. Là on est dans la vraie philosophie. Akadosh Baruch Hu, il nous enveloppe dans sa pensée, mais sa pensée n'est pas extérieure. C'est ce que t'as dit Michael tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes notions qu'on a employées par rapport à l'être humain, sauf que chez Akadosh Baruch Hu, dès qu'il pense à nous, nous sommes en lui.
Comme une pensée qui est en nous, c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Bah, c'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose, ta pensée elle est dans ton cerveau.
Eh ben non, parce
elle
que
sort de ton
je comprends,
quand
mais quand tu penses à quelque chose, la chose à laquelle tu penses n'est pas en toi.
Elle est où alors?
Je répète ce que je viens de dire. Tu penses à quelque chose. À quoi tu penses?
À quelque chose.
Dis-moi à quoi tu penses.
Un livre.
Le livre n'est pas dans ta tête.
Il est où?
Il est là.
Non. Je
oui.
pense à un livre, pas celui qui est là, un autre.
Il est où?
J'ai laissé chez moi.
Il D'abord. Est où le livre?
Chez toi. Il est dans ma tête.
Il est chez toi. Tu penses au livre qui est chez toi.
Il est chez toi.
Donc tu veux dire que je peux penser uniquement à des choses qui sont quelque part ailleurs physiquement?
Je dis que par définition, quand tu penses à quelque chose, c'est que tu penses de façon abstraite à quelque chose qui n'est pas en toi.
Sauf s'il a pris le livre par cœur et qu'il a réfléchi dessus.
Si, il peut avoir un.
Et quand je pense à une idée?
Quand tu penses à une idée, pareil. Tu penses à quelque chose, tu penses à une idée, ça veut dire tu penses par exemple à un concept que tu pourrais faire sur quelque chose, mais c'est pas la chose elle-même. Tu penses à un brevet que tu pourrais déposer.
Mm-hmm.
Mais le brevet c'est un concept, c'est-à-dire quelque chose que tu vas faire avec un téléphone, tu vas faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait ça. C'est dans ta tête pour l'instant.
Ouais.
C'est abstrait tout ça.
Ouais.
Donc ce qui est abstrait n'existe pas.
Ouais.
Okay donc ça veut dire que le livre qui existe dans ta tête, il n'existe pas ce livre. Tu penses à un livre qui est chez toi à la maison. Peut-être qu'il n'est pas chez toi, ce livre. Peut-être que ton fils l'a sorti et qu'il n'est plus chez toi, ce livre.
D'accord.
Donc celui ne se trouve que dans ta pensée.
Ouais.
Mais il n'existe pas. C'est pas parce que tu y penses qu'il existe.
D'accord.
Tu me suis ça, c'est... Non, c'est, pas... c'est très simple. Prends embrouillé.
D'accord, mais c'est...
Non, parce que le Tanya Daïr a dit le contraire.
Non, c'est non, le non. principe d'une idée, c'est abstrait.
Tu penses à ton compte en banque.
Ouais.
Qui te dit que ta banque existe toujours? Peut-être qu'elle vient de tomber.
Ah oui.
Peut-être qu'il y a 50 millions de plus dans le compte. Ah, peut-être qu'il y a 50 millions de moins.
C'est une chance sur un milliard. Hein.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Bon, ah oui, je sais par l'expérience.
D'accord, mais tu penses à ton compte, mais ton compte n'est pas dans ta tête.
Si, je sais ce qu'il y a.
Mais non. Le compte, il est à la banque. Il n'est pas dans ta tête.
D'accord. Il peut être dans les deux. Hein. Il est dans la tête et dans la banque.
Il y a un trou, là. Dans les oreilles.
C'est ça, pourtant, ce que je dis. Si je pense à quelque chose, c'est que cette chose n'est pas en moi. C'est simple.
Mais alors, j'ai un problème qui m'enveloppe et qui m'intègre.
Oui.
Je pense à ce problème-là. Il est en moi. Il n'est pas extérieur.
Non, le problème n'est pas en vous. Vous vous appropriez un problème qui n'est pas à vous. Exemple. Si, par exemple, j'ai mal à la main, là, je peux dire que le problème est en moi. Je pense à quelque chose qui est en moi. Mais si je pense à un livre déchiré qui est à côté de moi, le livre n'est pas dans ma tête. Mon cerveau pense à un élément qui est extérieur à lui. Donc c'est du sauveur complet, ça. Mon cerveau enveloppe quelque chose. C'est tout. Ça s'arrête là. Le livre n'est pas rentré dans ma tête. Et il ne peut pas rentrer dans ma tête. Parce que ça, c'est un cerveau, ça, c'est de l'intellect, et ça, c'est un livre physique.
Alors,
comment tu veux qu'un livre physique rentre dans l'intellect? C'est pas possible.
Donc tout est sauveur.
Donc, exactement. Donc, dès qu'on est dans la réflexion, la réflexion, par définition, c'est abstrait. Vous êtes d'accord avec moi?
Non.
Par définition. Toute réflexion est abstraite.
C'est une réflexion, non?
C'est une réflexion.
Sauf quand ça arrive à date.
Et là...
Enfin, c'est une réflexion qui doit déboucher. Elle est abstraite, mais l'objectif est de déboucher sur du concret.
Et le concret ne sera pas dans ma tête, il sera sur le terrain.
Peu importe,
extérieur
mais...
à moi.
Donc le concret ne sera pas dans ma tête, il sera extérieur à moi.
Oui, mais c'est...
Ma tête ne va pas construire de... Ma tête ne va pas construire de prototype. Ma tête ne va pas construire de livre.
Mais c'est elle qui va m'aider à le construire.
Très bien. Mais le livre ne sera pas construit dans ma tête. Il sera construit.
Mais parce que je l'ai déjà construit dans ma tête, que je vais le construire après manuellement.
En Chine. Si Dieu veut.
Par exemple, oui.
Enfin, tu rigoles. Mais si Dieu, c'est la vérité que tu les aimes.
Amen.
C'est pas simple. On a appris cette semaine, dimanche matin, hein, on a appris dans le cours de Gemara dimanche matin. À partir de quel moment, quand il y a une épidémie, on instaure un jeûne?
On
instaure un jeûne.
Tu aurais dû venir
lundi, jeudi.
On a dit, non, mais on a dit à partir de quelle fréquence?
Trois fois.
Hein?
Journée. Trois morts.
D'affilée, ah oui, trois morts.
C'était sur une ville de 500 habitants. Une ville de 500 habitants. Il faut qu'il y ait trois personnes qui meurent trois jours d'affilée. Il va nous donner le ratio.
Ça veut dire 9. 9 sur 500 pendant 3 jours.
Hein,
ça veut dire
on a parlé des smartphones tout à l'heure. Hein.
9 sur 500
pendant 3 jours
fait... Non. Une personne par jour qui meurt pendant 3 jours d'affilée.
Donc ça fait 3 personnes.
Donc ça fait 3 personnes
sur 500. Non, ça fait 3 personnes sur 500, mais en 3 jours distincts.
Oui, d'accord.
Parce que si j'ai 3 personnes qui meurent en un jour, c'est pas une épidémie. Ça. Il faut qu'il y ait une constance. Minimum 1. 1 par jour sur 500. 1 sur 500, ça fait combien?
500. Oui, ça fait...
Et 3 sur 500, ça fait combien?
Ça fait 2,6.
Et 3 sur 500, ça fait combien?
0,6%. Non, ça fait pas tout à fait.
Bon.
Parce qu'à chaque fois, il en reste un 2, il en reste moins.
Bon, est-ce qu'on arrive à ces chiffres en Chine? Les gens touchés, pas morts.
Non, c'est pas du tout.
On n'est pas loin?
Non.
On est très très loin.
C'est très très loin, c'est combien? Il y a un milliard de personnes.
Non, dans la ville. Ils sont combien là-bas?
55 millions.
Non, à Wuhan, ils sont combien?
Ils
sont 11 millions. Dans la ville même, ils sont 11 millions.
Oui, dans la ville, oui, ils sont 11 millions.
Ils sont 11 millions, et combien de touchés? C'est pas, on s'approche, hein, ils sont 13 000 touchés.
Ah, 13 000 quand même?
Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont mis dans ces 13 000. Là-bas, la Gemara a dit qu'on peut compter seulement les hommes qui sont en bonne santé. Parce que ceux qui sont en position de faiblesse, c'est-à-dire que les enfants et les femmes et les personnes âgées qui sont en position de faiblesse, ça compte pas dans le compte. Parce que de toutes les façons, ils sont sensibles. Donc comme ils sont sensibles, ils ne comptent pas dans le compte. Il faut trois personnes. Il faut prendre que les hommes en bonne santé. Et sur ça, il faut avoir 1 sur 500 pendant 3 jours.
On doit finir en plus.
Et là, on peut les finir.
Et là, c'est une épidémie.
Donc on n'est pas encore là parce que
je sais pas. Je
sais pas les chiffres.
Hein. Et pas 5% sur un million.
Ça veut dire 2000 personnes.
Écoute, quand on construit un hôpital, deux hôpitaux,
ouais,
en 15 jours, avec des milliers de places.
C'est pas des hôpitaux.
Mais c'est quoi alors?
Les hôpitaux de campagne.
Mais c'est un hôpital.
C'est pareil, c'est
des trucs en plastique que tu mets.
Mais pas forcément.
C'est un hôpital.
Oui,
mais enfin, pas forcément.
Ils ont percé les trous, ils ont fait des murs, des machins tout le temps.
Il n'a pas fait pour rien l'hôpital.
De campagne.
Non, je comprends, mais s'ils l'ont fait, peu importe, je comprends pas. Ils ont fait l'hôpital, c'est bien raison.
Ouais, c'est pas de l'Algeco non plus, hein. C'est plus solide que ça.
Bon, on continue. Sauvev et Mémalé. Mémalé, Sauvev. D'accord. Une idée, par définition, c'est du Sauvev. Yes. Par définition. Sauf que des fois, dans le Sauvev de mon idée, j'arrive à imaginer et préparer le Mémalé. J'arrive à prendre l'idée, à la disséquer, à la préparer, à faire un business plan, à la coucher dans les détails, les détails, les détails, les détails. Je peux réussir, éventuellement. Mais ça reste du même aller abstrait. Je suis encore dans l'abstrait. Là, on arrive au point, deuxième point de différence avec le Kadosh Baruch Hu. C'est que le Kadosh Baruch Hu, son sauveur n'est pas abstrait. Son sauveur est concret. Le Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il pense à nous, sa pensée nous attrape littéralement. C'est pas une pensée abstraite. C'est-à-dire que là, c'est un exemple que veut montrer l'Admor HaZaken pour montrer que et le Sovev et le Memalé est différent chez Kadosh Baruch Hu. Le Memalé chez l'être humain, il y a une connexion qui est tellement forte au point que un ressent ce qui se passe chez l'autre et si un bouge, l'autre bouge en même temps. Ça, on peut pas dire pour un Kadosh Baruch Hu. Même s'il est interconnecté avec nous, je peux pas dire que quand moi je bouge, Hachem bouge. Ça marche pas comme ça. C'est pas les roues dentées là, hein, vous savez que. Donc ça, d'accord. Ben, d'un autre côté, dans le Sovev aussi. Moi, quand je suis sauvé par rapport à une idée, c'est quoi le sauvé? C'est que mon idée va réussir à envelopper quelque chose de façon abstraite. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu pense à nous, sa pensée est créatrice.
En même temps. Quand moi je pense à quelque chose, je crée dans ma mesure une idée, un concept.
Tu as raison que c'est vrai que la pensée, c'est très important. Je comprends très bien ce que tu dis.
Donc ça veut dire qu'en réalité, dans ma pensée, la chose que j'ai pensée, que j'ai créée, elle existe dans ma pensée.
Bien sûr.
Elle n'est pas du tout extérieure.
La pensée
est à l'intérieur de moi.
Alors, tu fais bien, très bien de soulever cette idée. On va faire un petit... On va s'arrêter longuement sur le sujet parce que c'est un sujet important. Vous savez, les gens, ils parlent de la gravité du Lashon Hara. D'accord ? De façon générale, il y a trois catégories. Trois pôles d'action. J'ai un ami en face de moi. J'ai trois options. Je peux penser mal sur lui, je peux dire du mal sur lui, et je peux lui faire du mal. D'après vous, lequel est le plus grave?
Le faire du mal.
Évidemment, en réponse, c'est le faire du mal. Quand tu l'as fait du mal, tu l'as décollé une droite, tu l'as fait du mal.
En même temps, les deux autres, c'est des préambules.
Attends. Maintenant, évidemment, dire du mal, ça a l'air moins grave parce que ça va, j'ai que parlé, j'ai rien fait.
Oui.
Mais d'un autre côté, avec les paroles, tu peux détruire une personne. On a imaginé que ni j'ai fait du mal à quelqu'un, ni j'ai dit du mal de quelqu'un. Dans ma tête, sans en parler à qui que ce soit, j'ai pensé du mal.
Rien, pas de problème.
C'est grave ou c'est pas grave?
Bien sûr, c'est grave aussi. Bien sûr.
C'est grave.
Parce que c'est préambule, c'est
quoi? Mais c'est grave pour qui? Alors pourquoi ça t'empêche de réfléchir?
Non, c'est grave.
Pourquoi c'est un problème? La Torah me l'interdit.
Ah bon?
La Torah, bien sûr. La Torah me dit, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur.
Tu la vois la femme de l'autre. Tu mais penses déjà dérange. Elle, sans l'avoir touché.
Parce que le concept,
dans l'idée déjà.
C'est qui ça dérange? Exactement, vous avez donné l'idée de la femme. C'est la même chose.
Tu commences par la voir, tu le tiens, j'aimerais.
Rien d'accord, t'as la femme de l'autre. Il y a trois phases.
Bah oui.
T'as la pensée, t'as la parole, t'as l'action. L'action, c'est quand il est passé à l'acte. Évidemment, c'est grave. La parole, c'est quand il est là en train de lui tourner autour. Oui. Bon, évidemment, c'est grave, ça, c'est pas ta femme.
Il prépare le dossier.
Il parle, il est là en train déjà de parler d'un guichet, je sais pas comment on appelle ça, d'accord?
Bon. Quelle
horreur. Bah bon. Après, t'as la pensée. Les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a si j'ai pensé, alors? Hein? Justement. Non, mais moi, je le fais dans le désordre. Et après, t'as la pensée. Les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Ça, c'est comme les enfants. J'ai rien fait.
Mais souvent, la pensée, elle vient sans même la contrôler.
C'est quoi la réponse? Ce qu'il a dit Michael. Explique la chassidoute, la pensée est créatrice. Et quelque part, la pensée est plus grave que le reste. Pourquoi? Parce que la parole est extérieure à moi.
Attention, mais la pensée, moi, je ne la maîtrise pas.
Bien sûr que je la maîtrise. Je peux penser à autre chose.
Attends. On a fait,
Attends, je termine le raisonnement. Non,
tu développes ou tu t'arrêtes?
Si tu décides de développer ou pas.
Stop.
Donc, l'action, l'acte, il est grave, mais il est extérieur à moi. l'action que je fais est extérieure à ma neshama. La parole, c'est aussi, j'exprime, c'est extérieur à ma personne. Alors que la pensée, c'est le levouche, c'est le moyen d'expression qui est le plus proche de ma neshama. Donc en vérité, en pensant mal sur quelqu'un, je suis plus mauvais qu'en lui décollant une droite. Je suis plus mauvais qu'en lui décollant une droite. Parce que, en pensant du mal de quelqu'un, la pensée est le moyen d'expression qui est le plus connecté à ma neshama.
Mais on dit que la pensée...
Et c'est pour ça que je reviens aussi aux pensées interdites. Pourquoi une pensée interdite, d'une certaine façon, c'est plus grave qu'une parole interdite ou qu'un acte interdit? Parce qu'un acte interdit et une parole interdite, ça reste extérieur à moi. Mais une pensée interdite, c'est connecté à ma neshama. Donc ça veut dire que tu connectes le mal à ta neshama. Tu graves du mal à ta neshama.
C'est horrible ça. Pensée non refoulée.
Oui.
Non, mais, alors ça veut dire quoi ça veut, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil?
Non, ça veut dire que la pensée elle arrive.
Je peux pas penser, je peux pas lui coller une droite, je peux pas.
Il t'a rien fait le pauvre. Il
le bras au prochain comme toi-même. Alors,
tu veux pas te faire du mal, non?
D'accord, mais enfin bon, il y a des limites.
Est-ce que tu es capable de donner un coup de couteau sur ta jambe?
Il faut venir, monsieur Vénita, il faut venir au cours de Tania du dimanche matin. On suit ça en ce moment. Du vendredi matin.
Ah bon? Il y a quelque chose de particulier.
Oui,
là.
Viens vendredi matin.
Tous les jours, quelque chose de nouveau.
J'aimerais ton prochain comme toi-même.
Voilà. Tous les jours, on a des. Tous les jours, on va être à la nouvelle cour.
Au prochain. Au prochain.
Ce matin, on a appris les mitzvot de la terre, les mitzvot de la terre d'Israël. Tous les jours, il y a des nouveaux têtes. Il y a toujours la Torah et les enfants.
Il se passe tout le temps quelque chose aux Galeries Lafayette.
Ouais, pas mal, on va travailler. Je reprends. Il se passe toujours quelque chose au travail. Ok. Même aller, sauver. Donc. Je suis en train de dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, sa pensée est créatrice. Ma pensée aussi est créatrice, mais pas comme à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ma pensée est connectée à ma neshama, et tu as raison, Michael, de le dire. Et d'ailleurs, c'est vrai que la pensée est créatrice. Des fois, les gens, ils se créent des problèmes tout seuls. Les gens, ils disent, qu'est-ce qui va se passer? Et si, imagine-toi, et si le virus, il arrive en France? Et si et la bourse, elle tombe? Et si ça tombe? Et si ça tombe, etc. Tu as créé un problème dans ta tête.
Non, mais c'est quoi?
Non, mais il faut savoir que la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Et si mon enfant sortira raté? Et si je vais divorcer? Et si, et si, et si? Les pensées créent des problèmes.
Des choses qui sont graves et on a peur que ça arrive.
Non, ça marche pas comme ça. Faut pas penser comme ça. Faut penser positif.
Dire que notre vie est comme une pensée d'Akadosh Baruch
Hu. Alors non, justement. Moi, ma pensée, si tu veux, elle va influencer fortement ce qui va se passer. Mais ma pensée ne crée pas concrètement. Si tu veux, elle va me diriger vers une bonne ou une mauvaise direction. Et si par exemple je pense que tout ira bien, bah dans ma tête, dans mon être, je vais naturellement être poussé à bien voir les choses. Mais ma pensée ne crée pas les choses.
Enfin, c'est difficile de séparer les deux. Hein. Quand vraiment on est de.
Si je vais penser qu'il y a 1000 euros dans mon compte en banque, il n'y a pas 1000 euros qui vont tomber dans mon compte en banque.
Non, d'accord, enfin bon. Ben si, non. Si je vais dans me faire du mouron, si je sais que les 1000 euros ne vont pas me suffire.
Oui, mais c'est pas parce que j'ai pas.
Moi.
Mais c'est pas parce que j'ai pensé à 1000 euros qu'il y a 1000 euros dans mon compte. Non. Alors que chez HM, quand il pense à 1000 euros, il y a 1000 euros.
Oui, d'accord, mais moi je peux imaginer.
Non, comment enfin c'est sérieux ce qu'on dit, monsieur Benita?
Oui, non, mais d'accord, c'est sérieux. Bon.
Monsieur Benita, vous avez pris Bereshit?
Encore,
oui, mais bon. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais à quel moment il a fait la lumière?
Quand il a dit
Abracadabra.
Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Moi, c'est pas comme ça que tu aurais dû me le faire ce verset. Tu aurais dû me dire, Dieu a fait la lumière, et la lumière fut.
Et alors, comment expliquer
Attendez, répondez à ma question d'abord, s'il vous plaît.
Ouais, ben justement, ça relève de la lumière. Comment il se fait que...
Comment il a créé?
En parlant, la parole.
Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Sa parole.
Mais comment la lumière fut? À quel moment il a fait?
Avec la parole.
Non, mais fût, ça ne veut pas dire qu'elle fût, ça veut dire qu'elle est plus.
Non, fût, il a créé.
Elle est plus générée par la.
Non, attendez, il a créé.
Par la parole. C'est
plus Dieu, Dieu a dit que les animaux viennent. Et les animaux furent. Mais quand il a fait les animaux? Il les a fait quand? C'est comme si je vous dis, Charles Benita a dit qu'il y ait 1000 euros dans le compte, et il fut 1000 euros dans le compte.
Mais parce que tu n'as pas dit Jacques a dit.
Et où il est, d'où il est sorti?
Jacques a dit.
Allez-y, dis, annoncez.
1000 euros, on va pas aller voir non plus.
Enfin, là, non, mais tant qu'à faire, rajouter des zéros.
Là, on rentre dans des discussions de.
Non, c'est sérieux, prends des discussions. David, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je dis comme Jacob, moi, que 1000 euros, tu vas pas loin.
On commence petit, après on va gros.
Hein, il est pas, non, que nous, le coup d'achève et de la vache, le coq, ça, c'est bon.
Tu connais pas la blague? Une fois, il y a quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Hachem, pour toi, c'est écrit dans les Tehillim que pour Hachem, Elef Shanim Benecha Kiyam Etmol. 1000 ans pour toi, Hachem, c'est comme du jour au lendemain, c'est comme un jour. Alors, Hachem, donne-moi 1 euro.
Ah ouais, voilà, 1000 ans.
Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Attends une seconde. C'est pas mal, une seconde, c'est pas.
Alors, comment expliquer cette affaire de lumière? Il dit que la lumière soit et la lumière fut, oui. Et donc il s'adressait à l'univers.
Donc Hachem a...
au monde entier, il s'adressait.
Non.
Pourquoi non? Rien que le mont Sinaï, ça y est, et là-bas, il fait.
Ah, vous croyez qu'il a donné des ordres, Hachem? Il a donné des ordres à qui?
Bah, il a dit.
Il a une task force, il a 2 millions de Chinois qui vont lui créer un monde.
Non. Il a dit que la lumière soit.
À qui il a dit?
Il s'adresse
à qui il a dit?
À l'univers.
À qui il a dit?
À l'univers.
C'est qui l'univers?
Ben, c'est le monde
c'est
entier.
C'est la mère nature, c'est qui?
C'est lui. Il se parle à lui-même.
Je veux dire par là, au monde entier.
Il a dit à qui?
Pour que ça, que la lumière soit.
Vous rentrez chez vous ce soir, vous dites que le repas soit.
Ah bah, c'est
vous parlez à qui?
C'est l'État dit, j'ai faim.
Non.
Et le repas fut.
Il s'est adressé. Il a dit que la lumière soit pour l'univers, pour le monde entier. C'est pas uniquement pour le Har Sinaï.
Mais il a dit à qui?
Ben il a dit à lui-même. Je sais
pas. Mais pourquoi il se le dit? Il savait déjà.
Ben oui, alors.
Alors, pourquoi il parle alors? Qui parle?
Il savait, ça. Bon.
Il parle
ben,
pas là.
Non,
mais, dire, hein.
Non, c'est sérieux, mais question sérieuse.
Non, on va pas rentrer dans.
Mais attendez, c'est sérieux.
Oui, t'as raison. C'est le concept de la parole générative.
Oui, d'accord.
Il a parlé à qui? Il a parlé à quelqu'un. Il a dit aux anges, créez. Ils ont pas créé les anges.
Il a créé la lumière. Très bien. Mais
comment il a créé la lumière?
Bah, par sa parole.
Par sa parole. Et avant la parole, comment il a créé?
Par la.
Mahashava, par la pensée. La pensée est créatrice. À cada jour, en pensant à quelque chose, ça se fait tout de suite.
Alors pourquoi il dit, il a créé la lumière et il a vu que c'était bien, il ne savait pas qu'il serait bien? Il ne savait pas que la lumière serait bien, puisqu'il a déjà pensé dans le Mahashava, c'est qu'il savait que ça serait bien.
Vous posez une autre
pourquoi
question,
tu dis qu'il est bien?
C'est une autre question que vous posez.
La lumière, c'est pareil. Hein. Quand, pourquoi il dit, il a créé la lumière, que la lumière soit. Il a parlé pour l'univers. Et alors, comment expliquer que la lumière...
Et comment il a vu avec les yeux?
Il a la lumière, bon, et en Australie, il fait noir.
Oh,
ah, bah si.
Charles, non.
Ah, bah si.
Tu connais un peu la Terre est ronde, elle tourne et c'est du soleil.
Il a baissé les mains.
Vous savez, Charles, la Terre, elle n'est pas plate.
Oui, non, mais
elle est ronde.
Non, mais quand
et elle tourne.
J'ai compris.
Il y a un axe. Et il y a un soleil. Le soleil bouge aussi.
D'accord. Mais bon, simplement, si je traduis comme ça, il me dit que la Terre soit. Et comme il a dit, elle a créé la Terre, c'est pour l'univers.
Ce que je veux dire, c'est que la seule différence, c'est que moi, quand je pense à quelque chose, ou quand je parle de quelque chose, ma parole n'engage pas ce qui va se passer. Elle peut influencer, mais elle n'engage pas.
Vous,
ma pensée,
mais
seconde.
Pas au niveau
mais
du
à Kadosh Baruch Hu, sa pensée est créatrice. C'est ce qu'il dit ici. Aval à Kadosh Baruch Hu. Dire Tibbe qui l'a marché votaille, marché votechem. Je suis au milieu de la page. À Kadosh Baruch Hu, il est écrit à son sujet, dans Isaïe, car mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Mais nous, quand on est inversé comme ça, qu'est-ce qu'on comprend? On se dit, on s'imagine. C'est comme un PDG qui va dire, mes pensées ne sont pas comme les vôtres. Si vous comprenez rien, j'ai tout compris. Non, c'est pas ça ce que j'ai mis dit. Hachem, il n'est pas hautain. Hachem, il te dit pas mes pensées sont pas comme les vôtres pour te prendre de haut. Hachem, il veut dire simplement.
Mes pensées, elles sont créatrices.
Exactement. Le caractère de vos pensées n'est pas comme le caractère de mes pensées.
On n'est pas la même division.
Du tout.
Mais c'est une façon détournée de me dire.
Marchav to vediato. Monsieur Benita, votre crédit est épuisé. Marchav to vediato, chez Idea Kola d'Ibrahim. Chez Idea Kola d'Ibrahim. Mais qu'est-ce que vous faites? Béchila, mais il faut qu'on avance.
C'est même en débit, là.
Pardon.
Là, vous avez déjà posé les questions pour la semaine prochaine, donc.
Oui, d'accord, bon.
Mais qu'est-ce que vous faites? Kol Nivra ve Nivra ve Poel Mamash. La pensée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, par laquelle il connaît et il enveloppe tous les êtres de manière effective.
Concrètement.
Exactement. Quand Hachem il pense à toi, tu es dans sa tête. Mamash.
Heureusement.
Et quand Hachem il se dit, si Charles Benita faisait ça, Charles Benita fait ça. Miyad, tout de suite. Extraordinaire ça. C'est-à-dire qu'Hachem il doit faire attention à ses pensées.
Ah oui, s'il pense pas, tu.
La pensée est créatrice.
Non, c'est Hachem, c'est...
Mais nous, on s'imagine pas à quel point la pensée est créatrice.
Une connexion, alors.
Tout à l'heure, j'ai parlé de Rav Benjamin Klein. Rav Benjamin Klein, il raconte qu'une fois, il était. C'était un secrétaire du rabbi. Une fois, il était avec le rabbi dans la voiture. Et le rabbi lui demande de faire quelque chose. il raconte, il dit, et là, alors lui, Rabbi demande de faire quelque chose, et lui, dans sa tête, il se dit, oui, mais, dans sa tête, il se dit, mais je vais aller demander ça à un tel, et un tel, il pourra peut-être me dire ça. Et à la seconde, le Rabbi lui répond, il lui dit, si tu diras ça, tu lui diras ça. Alors après, il continue, tu vois, il dit, oui, mais il va me dire ça. Et ma mâche, ça veut dire, c'est passé 3-4 fois comme ça, à la fin, il a arrêté de réfléchir, il a eu peur de réfléchir. Il dit, c'est depuis la première fois. Il dit, quand j'étais en présence du Rabbi, j'essayais de pas réfléchir. Et il dit, c'est arrivé des centaines de fois, des milliers de fois, que le rabbi réagissait à ses pensées. Kipchuto, littéralement. C'est-à-dire que, il rentre dans le bureau du rabbi, il dit, peut-être je demande ça au rabbi, on lui dit, non, pas besoin de demander ça, ça. Mamash, comme ça. Mamash. C'est-à-dire que la pensée existe. Elle est là. Seulement un tzadik qui peut sentir ce que tu sens. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus que ça. Kadosh Baruch Hu, la pensée est créatrice. Oui.
Ça veut dire qu'il y a une connexion entre lui et nous. Et donc ça veut dire qu'il y a un émetteur-récepteur. Si tu dis qu'il pense, de ce qu'il nous envoie, on doit percevoir ce qu'il nous demande de faire. Simplement, on a dit qu'il y a une distance entre nous, déjà le soleil. Comme Dieu est partout. Bon,
alors justement, c'est une très bonne question ce que vous posez. C'est plus qu'un émetteur-récepteur. Parce que s'il y a un émetteur-récepteur. J'entends ce que vous dites. S'il y a un émetteur-récepteur, ça veut dire que l'émetteur et le récepteur sont deux éléments distincts.
Et communiquent.
Ils communiquent, mais ils sont des éléments distincts. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut envoyer des ondes dans tout l'univers.
Bon, ça met du temps à revenir.
On peut oui, je peux oui, envoyer des peut, ondes à la Lune.
On peut émettre.
Non, mais si y a un émetteur et un récepteur,
donc y a quelqu'un qui...
ça veut dire que ce qui est ici n'est pas sur la Lune. J'envoie une onde sur la Lune, mais l'émetteur et le récepteur sont forcément deux éléments distincts. Or, et ça, on arrive à un point très important, ce que vous avez touché là. Si on dit que pour un cas de jour où il y a un émetteur et un récepteur, ça veut dire que nous sommes en dehors de lui, ce qui est faux.
Non, on est en communication.
Non, c'est plus que ça. Ah. Parce que être en communication, c'est que il y a deux éléments distincts qui sont en communication. C'est faux. Je ne suis pas en communication avec Hachem.
Je suis
dans Hachem.
Le sauveur et l'homme allé.
Ça, c'est extraordinaire, ça. Et là, on commence à comprendre la complexité. Parce que quand moi, je communique, voilà, j'ai trois façons de communiquer avec quelqu'un. J'ai pensée, parole, action. Pensée, je pense à lui. Bon. Parole, je lui parle. Action, je fais quelque chose en lui. Chez la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas ces trois catégories. C'est les trois directement. Sa pensée, j'ai créatrice. Il pense à toi, t'es déjà dedans.
À nous de.
Ça fait beaucoup réfléchir, ça. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on peut jamais être en dehors de la Kadosh Baruch Hu. Jamais.
Je vais s'endormir.
Mais comme ma pensée, elle ne peut jamais être en dehors de moi. Même quand je pense que je crée dans ma tête, je dis n'importe quoi, une ville.
Ta pensée n'est jamais en dehors de toi. Mais l'impact de ta pensée est relatif.
Elle est à l'intérieur de ma pensée.
Donc
si je pense,
donc
si je
est, pense à une donc ville, l'impact de ta pensée sur le monde qui t'entoure est nul.
D'accord. Je peux considérer aussi que le monde que je crée, je le crée dans ma pensée, et à l'intérieur de cette pensée, je crée un événement X, Y ou Z.
Oui, mais tu ne crées pas, tu influences, tu ne crées pas. Qu'est-ce que tu as créé? Tu n'as rien créé. Les gens, ils se font des rôles à mode, ils font des rêves.
Un business plan, ça.
Mais j'ai créé une pensée, c'est tout ce que j'ai créé. J'ai créé un comment ça s'appelle, je dis n'importe quoi, une maison blanche.
Oui, c'est comme un rêve.
Okay. Là, maintenant, à l'instant.
Et après, tu te réveilles, tu touches ton lit, tu vois que tu es là, tu es toujours là.
D'accord, ok.
Tu comprends, c'est ça la vie de différence. C'est que dans l'imagination, tu peux tout créer. Tu peux créer la planète, tu peux être le roi du monde. Tu te réveilles, bon.
Allez, faut te réveiller.
Allez, faut te réveiller. D'accord. Les enfants debout. Allez, c'est fini.
On est à 100% de celui-là.
Le rêve est terminé, hein.
Il pleut, hein.
Michel, vous êtes en sauvé, là.
Bien sûr. Non, voilà, on est dans la réalité, là.
Non, mais pleut. Pas trop, il pleut.
J'entends la pluie tout à l'heure.
J'ai pas besoin de me connecter à un serveur qui se trouve à 200 km d'ici pour me dire qu'il pleut. À côté de moi, il pleut. Mais m'allez.
Sans parapluie, hein. J'ai entendu la
pluie. D'accord. Bon. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que on a déjà quand même, je vous ai déjà quand même un peu poussé aujourd'hui.
Intéressant. On va voyager là.
Non. Tu veux faire Arvid, moi j'ai fait. Comme vous voulez. Hein.
Allez, on s'arrête là.
Alors, bon, Arvid peut-être pour certains.
Oui, je vais faire Arvid.
Qui n'a pas fait Arvid, lève la main s'il vous plaît.
Je lève la main.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,